Bớt độc đoán.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Ce soir, je suis avec Christophe et Ludo, bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Claude à la technique, et nous parlerons bien sûr, comme d'habitude évidemment, du chômage, des contrats courts, également du fichier national biométrique généralisé, donc qui s'appelle exactement les titres électroniques sécurisés. Évidemment, on va parler aussi de la primaire de la droite, parce que il était bien drôle de voir tous ces énarques et ces hommes de pouvoir se battre sur des thématiques comme le logement, l'emploi et autres. Donc, une émission en couleur. Merci bien. Donc on va commencer cette émission par un petit peu discourir sur les différentes thématiques qui ont été posées, voire imposées par les journalistes des différentes chaînes en continu. Donc sur la primaire de la droite, donc chacun a son projet hein, pour se présenter au présidentiel. Donc toutes les thématiques ont été abordées. Juste une petite précision, un quart d'heure quand même a suffi pour parler un petit peu de la relation qu'ils avaient avec le centre, et une minute seulement pour parler de l'école à la fin de l'émission, parce que j'ai trouvé ça disproportionné en termes de, d'urgence et de priorité. Ludo, tu as suivi un peu l'affaire, tu as regardé un petit peu les différents programmes et tu en as déduit, tu penses que ce sont de bons programmes, enfin c'est une question un peu idiote, mais de bons programmes ou des programmes qui sont un petit peu comme avant, c'est un petit peu, ils ont accentué un peu le libéralisme dans leur programme.
Mais écoute, pour moi c'est des programmes révolutionnaires.
Ah.
Révolutionnaires de droite, bien entendu, hein. C'est tout le problème. Et puis en fait, j'avoue que le débat hier ne m'a pas passionné. Parce qu'en fait, j'avoue à ce micro, comme on intervient une fois tous les mois, le débat qui était intéressant, c'était celui d'il y a 15 jours, parce que ça parlait chômage et économie. Et donc, et c'est là-dessus que je me suis dit, électeur de gauche, s'il en reste, si vous avez vraiment l'intention d'aller voter à la présidence, à la primaire de la droite, ne vous laissez pas abuser par les discours qui vous disent que tout est pareil. Voilà, car si vous avez aimé les 5 ans du mandat de Nicolas Sarkozy en votant à la primaire de la droite et du centre, vous aurez le choix de la prochaine louche. Car n'allez pas croire ce que l'on raconte ici et là, il existe des nuances sensibles dans les programmes des candidats, nuances qui pourraient bien bouleverser notre quotidien à tous. Alors, on fera peut-être la liste un peu plus tard, mais là, je vais prendre juste un exemple, qui est celui de la durée du temps de travail. Donc, Alain Juppé, qui tient la corde en ce moment, est pour le retour pur et simple aux 39 heures. Car, dit-il, littéralement, un mois travaillé en plus sur l'année équivaut à un mois de salaire supplémentaire. C'est évident, un mois de création de richesse ne peut qu'enrichir harmonieusement tout le monde, c'est le but, dirigeants d'entreprise et salariés. Alors évidemment, quelques esprits chagrins pourraient demander au putatif futur président de la République s'il compte revenir sur les allègements de charges consentis aux entreprises au moment du passage aux 35 heures. Il pourrait aussi lui demander ce qu'il compte faire des RTT. Donc les RTT, hein, c'est ce que vous gagnez en plus quand vous travaillez plus que 35 heures par mois. Et de la flexibilité du temps de travail qu'elles ont permise. Donc, par exemple, travailler 44 heures sur 12 semaines, qui est une innovation de la loi El Khomri, la loi travail El Khomri. Mais surtout, il devrait lui demander s'il a l'intention de s'assurer que l'augmentation de la durée du temps de travail profitera bien aux bas salaires. Par exemple, en revenant au SMIC 39 heures, sensiblement supérieur au SMIC 35 heures, les deux ayant cohabité quelques années. Autrement dit, une augmentation du SMIC en compensation de l'allongement de la durée du travail. On attend toujours la question des journalistes, mais lui, il a déjà donné la réponse. C'est mécanique. Alors, je déclare ici mon amour pour le programme de Nicolas Sarkozy. Eh oui, monsieur, le président du pouvoir d'achat. Bien entendu, ouais, bien sûr. Il y a des centristes
qu'est-ce qui se passe dans cette émission?
Qui aime Alain Juppé? Du tout, monsieur. Je ne suis pas centriste et je le prouve. Et oui. Pourquoi?
Tu veux parler de l'énervé de Neuilly, c'est ça?
Alors l'énervé, mais l'énervé a parfois la tête sur les épaules. Ah. Et oui. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette émission, on a beaucoup critiqué les heures supplémentaires défiscalisées. Et pourquoi? On a dit, c'est une mauvaise chose pour l'emploi. Et c'est à raison, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà, les heures supplémentaires défiscalisées. Donc Nicolas Sarkozy a dit dans le précédent débat que lui, il ne reviendrait pas sur les 35 heures et qu'on ne revient pas sur un acquis social. Et pourquoi on n'y revient pas, a-t-il dit? C'est qu'on ne revient pas, on n'ampute pas les bas salaires. Parce que pour lui, hein, le gain en termes de RTT ou le gain de temps de travail s'accumule à un salaire non payé. Mais revenir aux 39 heures, c'est pour lui diminuer le SMIC horaire, tout simplement.
Absolument.
Et donc lui, il propose, toujours fidèle à son programme, travailler plus pour gagner plus, comme il disait, de nouveau les heures supplémentaires défiscalisées, qui avaient été effectivement pas mal utilisées
à
l'époque où elles étaient autorisées.
Sans création nette d'emploi prouvée.
Bien entendu. Alors, je suis pas allé regarder dans les études, hein, parce que, mais il y a une chose que je sais, mon cher ennemi en face de moi, là. Oui, parce que là, je suis dans la primaire de la droite, donc. Hein. Donc, j'apostrophe. Une chose que je sais, Christophe, c'est que 39 heures sont défiscalisées ou pas. Hein. Enfin bref, 39 heures, en termes de création d'emploi, tu vas pouvoir t'asseoir dessus. C'est-à-dire que c'est bien pire, en réalité. Et voilà. Et donc, je déclare mon amour pour Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, c'est-à-dire le président de la base populaire. Parce que, voilà, Nicolas Sarkozy... Enfin, je veux dire, à conscience qu'il a quand même été élu en partie, hein, grâce aux ouvriers aussi, tout ça. Et au passage, parce qu'il y a quand même une autre nuance entre les deux points. Non, parce que franchement, hein, je veux dire, ça commence à être fatigant d'entendre que Alain Juppé est quand même plus modéré que Nicolas Sarkozy. Et donc, il faut rétablir un peu les faits.
C'est ce qu'on fait ici dans cette émission. Ils sont tous de droite, c'est sûr.
Voilà. Bon, ça c'est sûr. C'est voilà. Ok. Et donc, je tiens à rétablir, oui, Alain Juppé, par exemple, ou François Fillon, encore plus un bon libéral, François Fillon. Oui. Eux parlent d'augmenter la TVA.
Absolument.
Donc, ça n'a l'air de rien. Hein. Un point pour Alain Juppé, 2,5 pour François Fillon.
C'est énorme.
Si vous voulez, si vous le mettez sur tous les prix, si vous voulez sur tous les prix, pour le bas salaire, c'est le plus violent, quand même. Hein. C'est-à-dire que cumulé, ça fait effectivement une baisse de pouvoir d'achat. Si vous ajoutez en dessus les 39 heures, le retour aux 39 heures, je vous raconte pas la baisse, en fait, hein,
du pouvoir d'achat,
tout simplement, des ménages les plus modestes.
Et oui. Alors,
Nicolas Sarkozy, je termine la démonstration, est contre. Bien sûr, il est contre l'augmentation de la TVA. En bon économiste, non, pardon, qu'il est, j'ai pas dit ça. Voilà, toujours soucieux de sa base électorale. Alors, plus sérieusement, mais peut-être que tu voulais poser une question.
Oui, non, mais pour revenir, on va revenir sur le fond parce qu'il y a quand même aussi des autres candidats comme Poisson, le maire, etc. Mais bon, c'est pas très très important, mais parce qu'en fait, on connaissait un peu ce qu'ils allaient dire puisqu'on les a vus au pouvoir. Hein, on sait très bien qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Donc pour les chômeurs et pour le reste, ça va être encore une grosse galère, hein, ça c'est sûr. Donc on s'attendait pas à des surprises, même si c'est peut-être révolutionnaire, c'était pas des surprises exceptionnelles. Moi, je voudrais revenir sur la forme, parce qu'en fait, ils ont fait un petit peu la forme américaine, tout le monde debout, chacun parle à son tour, il y a pas vraiment de débat, mais chacun raconte un peu ce qu'il a envie de faire. Est-ce que tu trouves que cette forme de débat est intéressante, ne serait-ce qu'à écouter, qu'à voir? Parce que en fait, je les ai tous trouvés un petit peu enfants devant un micro, un petit peu peur de dire des bêtises.
Moi, je trouve que ça dénote surtout, c'est-à-dire qu'avant d'être président, c'est un peu les candidats sont entre guillemets infantilisés et foutus en situation d'écolier devant en fait les médias. C'est-à-dire que c'est comme si les médias, les chaînes d'information continue avaient une ascendance, avaient pris une place qui les contraint à passer à ce rite tout en étant très poli, alors que c'est vrai qu'il y a certaines questions des journalistes ou certaines manières de faire des journalistes, j'imagine qu'ils auraient bien envie de les envoyer paître ailleurs, quoi.
Carrément,
voilà.
Ouais.
Et donc effectivement, ça c'est, enfin je veux dire, effectivement c'est le travers de la démocratie américaine, c'est-à-dire la prise de l'importance des chaînes d'information continue et le pouvoir finalement qu'ils ont sur les hommes politiques. Voilà. Après, oui.
Moi, j'ai pas écouté le débat, mais j'en ai écouté une minute comme ça d'un œil distrait, si tu veux. C'est vraiment une impression furtive. Et le sentiment que j'ai, c'est ne communiquons. Le sentiment que j'ai, c'est ne communiquons. Voilà, c'est la communication. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de conviction derrière.
Après, moi, j'ai vu une chose, c'est que ça met en lumière des quand même des nuances entre les débats.
Alors, oui, il y a des nuances. Par contre, dans un pays où il y a près de 6 millions de chômeurs et près de 10 millions de personnes qui vivent dans la précarité, dans un des pays les plus riches du monde, sachant qu'il y a une étude récente qui explique que jusqu'en 2020, on va avoir à peu près 20% d'augmentation de millionnaires en France. Faut quand même pas l'oublier. Hein, on va passer de 653 000 foyers fiscaux millionnaires en patrimoine à un peu plus. Hein, faut pas l'oublier, ça. Tous ces gens-là veulent raboter, casser les services publics et raboter les prestations sociales.
Oui, alors, oui. Ouais.
C'est vraiment à vomir. Il y a le bémol qui fait vachement bien parce que c'est super tendance. C'est oui, mais pas chez nos tendres poulets parce qu'il y a les attentats. Voilà.
Oui. Alors pour revenir, merci Christophe. Pour revenir au débat des primaires sur le justement le côté du chômage.
J'avoue qu'on jouit tous un peu de voir les candidats de droite s'écharper entre eux, mais ce serait pareil pour les candidats de gauche entre guillemets, c'est-à-dire courir après une carotte, être obligé de se démarquer les uns par rapport aux autres. Le terme n'est pas bien choisi, mais moi ce que je trouve plutôt dommage par rapport à ta question de départ, c'est que finalement les journalistes, le débat est fini, pour eux ça fait le buzz. Ils voient ça en termes d'audience, et on en a pour 3 heures, que ce soit France Info, BFM ou tout ce que tu veux, sur la prestation des candidats, qui a été le meilleur, qui a été le moins bon. Et j'ai même entendu Apathy, mais ici dire, oui, alors sur le fond, c'était pas vraiment très intéressant. Mais bon, voilà, je veux dire, apprendre quand même. Enfin, c'est peut-être aussi le boulot des journalistes d'être un peu pédagogue sur, en tout cas sur
et les conséquences. Poser des bonnes questions
sur les conséquences des réformes, parce qu'il y en a. Alors il y a. Je crois qu'il y a l'émission politique, il y a un journaliste économique qui était un peu plus percutant sur le programme. Bon, ça c'était bien, mais il a pris le temps de dire. Enfin, c'est pas dans le débat, voilà. Mais donc ça c'est vraiment dommage de voir finalement réduire ça à une espèce de compétition ou voilà un peu un match de boxe. Voilà, c'est ça la politique. Et je veux dire, donc moi j'ai regardé le débat, je vais vous dire, et puis après j'ai coupé la radio et la télé parce que ça m'intéresse pas d'entendre les commentaires des journalistes.
Non, mais il faut savoir que les questions qui ont été posées, moi j'ai regardé ça sur iTélé, de mémoire. C'était deux femmes qui étaient journalistes qui présentaient Ferrari.
C'était BFM hier, effectivement, ouais. iTélé, BFM. ITélé.
Et les deux nanas, qui sont des journalistes, aguerris, j'ai pas eu l'impression qu'elles posaient les bonnes questions, quoi. C'est-à-dire qu'elles voulaient poser des questions pour entendre des réponses déjà connues de tout le monde. Pour juste avoir la différence entre eux, les questions, sur par exemple les questions du logement, l'emploi, etc. Mais
Parlé du logement quand même.
Ils n'ont pas beaucoup parlé des mises en examen, par exemple, tu vois.
Précédent débat.
Oui, c'est vrai.
On avait parlé au précédent
débat. La grosse problématique qu'il y a derrière, c'est qu'il faut quand même pas oublier que c'est tous des libéraux, c'est-à-dire que tous des personnes qui sont pour la loi du marché sans contrainte ou avec le moins de contraintes possible.
Oui, bien sûr.
Donc déjà là, ça tu réduis les initiatives de l'État parce que déjà c'est anti-étatique comme base idéologique.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'en fait, en réalité, d'ailleurs c'est une anecdote qui était intéressante parce que BFM, qui est la chaîne qu'on connaît, était là oui à la présentation d'avant débat. Oui, c'est notre candidat, sous-entendu le candidat de la droite, c'est-à-dire qu'il se cachait à peine du fait que BFM en fait attendait ce débat parce que eux ils roulaient effectivement pour la droite. C'était clairement ça. Et concernant l'étatisme, tout ça, moi je suis pas d'accord. Je suis sûr que Alain Juppé est le candidat le plus détesté de la droite libérale en réalité, parce qu'en fait effectivement c'est le candidat le plus étatiste de tous, qui a un œil centré sur les déficits publics, quoi qu'il en dise, qui s'est déjà présenté comme la personne qui ne rubriquera pas d'autres mandats et qui ne se laissera pas intimider par, maintenant qu'il est président, qui ne se laissera pas intimider par les mouvements de la rue. Et donc, qui a un cap fixe, qui est très clairement la baisse des déficits publics, la baisse des dépenses de l'État public, donc est-ce que ça veut dire être
pas
en dessous des 3%,
voilà.
L'augmentation de la TVA s'il le faut,
la baisse,
et puis des réformes des réformes au coup près, quoi. Mais dans cette optique, c'est-à-dire que pour lui par exemple, on peut considérer que la baisse des charges sociales auprès des entreprises, elle sera beaucoup plus limitée que Nicolas Sarkozy ou surtout que François Fillon. Et moi je pense que le vrai champion des patrons en fait c'est François Fillon, parce que c'est celui qui a le programme. Effectivement, il parle vraiment de choc, la thérapie du choc,
ouais, c'est ça. Ça, oui.
Et donc il a vraiment le programme le plus libéral pour le coup, c'est-à-dire baisser les charges un maximum les charges des entreprises, c'est son grand credo. Baisser évidemment les impôts sur les hauts revenus. Alain Juppé est aussi pour compenser tout ça par l'augmentation de la TVA. Donc concrètement, ça a un effet direct. Hein. Ouais, c'est-à-dire que pour les bas salaires, ça veut dire une baisse effective donc
du pouvoir d'achat,
mais aussi une baisse de la demande. Or, France, ce qui tire la croissance, c'est quand même la consommation. C'était avant 2000. Et c'est, si vous ajoutez à ça la coupe, même, je parle même pas des suppressions de fonctionnaires, mais je parle juste des dépenses publiques et donc de la commande publique, donc genre 100 milliards sur 5 ans, donc c'est quand même considérable, c'est énorme. Et évidemment, bon, bah, l'embauche des fonctionnaires, alors plus à droite, il y a aussi la suppression des emplois jeunes, hein, Bruno Le Maire. Donc là, vous avez le cocktail pour avoir une stagnation dans les 5 prochaines années qui viennent. C'est-à-dire au sens où, au minimum, les 3 prochaines années. Au sens où, dans les années qui viennent, on va se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec Hollande, en plus fort, avec un taux de chômage qui va continuer à augmenter, parce qu'on peut pas lutter à la fois contre les déficits et lutter contre le chômage. Il faut que les choses soient claires. On peut pas faire les deux en même temps.
Bien sûr.
Et en plus, une baisse du pouvoir d'achat, une baisse de la consommation, donc une stagnation, en fait, sur le long terme, parce qu'il va falloir aussi qu'on absorbe les prélèvements sociaux. Donc, aux gens, aux électeurs à qui on essaye de faire croire que la droite a un programme pour lutter contre le chômage, il faut leur dire, à cette antenne, ils nous croiront pas parce que, voilà, on est FFP, mais n'empêche, il faut leur dire que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge et que dans les 3 prochaines années, on aura une augmentation du chômage et une baisse du pouvoir d'achat. Et que c'est ça le programme de la droite et de toute la droite, que ce soit Juppé ou Fillon ou Sarkozy.
Alors dernière question que je me la pose également à moi-même, enfin c'est une façon de parler, mais sur le taux, justement sur le côté chômage, ils sont tous pour la dégressivité hein, des allocations. Je crois que c'est, de mémoire c'est 20% au bout de 6 mois.
20% au bout de la première année. Alors 6 mois non, c'est 6 le mois. Plus extrême.
Oui, c'est ça. Et après 25%.
Si c'est Fillon
alors,
ou
certains
le maire.
C'est 25%, hein, je crois.
25% donc. Effectivement, c'est le, je crois que c'est Copé.
Oui, je crois. Année. Donc on va se faire voilà. Donc
c'est 20% pour Sarkozy, 20% la première année et 20% au bout de la première année et encore 20% au bout de 6 mois.
C'est ça.
Quant à Jean-François Copé, c'est réduire d'un an la durée d'indemnisation sur le modèle allemand.
Ouais. Enfin bon voilà.
Donc n'allez pas voter. Les chômeurs vont je veux dire oui au passage parce qu'on parle de la dégressivité des effectivement
à sur les pauvres. Hein.
Ah carrément parce que derrière l'allocation maintenant, on parle d'une allocation unique,
oui.
Une allocation sociale unique, par exemple, François Fillon est pour, pour que l'allocation unique, sociale unique, donc, hein, donc enfin, tout confondu, ouais. C'est y compris l'allocation logement dans ces cas-là.
Entre 500 et 1 000 euros.
Voilà, et ben, effectivement, soit inférieur désormais au revenu du travail.
C'est exact.
Donc ça veut dire qu'effectivement, les chômeurs vont s'en prendre plein.
On va s'écouter une petite chanson, les enfants, et puis après, on reprendra la parole sur ce sujet. Merci.
Dans tous les musées, on la tourne sans presse, c'est la vraie, mais la vraie, mais le vrai.
Et oui, c'était Dédé de Montmartre, choisi par Claude, notre technicien.
Alors, pour compassion, nous remercions nos auditeurs de lui ramener sa laisse. Il y a des nécessités, des fois, dans le temps. Voilà.
Alors, je dédie évidemment
merci
cette...
merci,
Christophe. Je dédie cette chanson, évidemment, à toutes les personnes âgées qui ont été combattants sur les barricades de 36, évidemment. qui sont toujours
vivants. Et ça date.
Voilà. La révolution continue à se faire dans notre station, dans notre émission aussi. On va parler aujourd'hui, maintenant tout de suite, Christophe, de ce qu'on appelle le revenu universel, c'est-à-dire ce revenu qu'on va donner à tous les Français en âge de, pas de voter, mais d'être entre, je crois que c'est, je crois qu'il y a un âge minimum. Hein,
ça pourrait être 18 ans, ça pourrait être dès la naissance. Mais
pour tous les Français, entre 500 et 1 000 euros, c'est quoi cette histoire, dis-moi tout.
Alors, je vais, sans être trop professoral, je vais t'expliquer quelque chose.
Oui, dis-moi tout.
Ça commence bien.
Voilà, en gros, t'as un ensemble de minima sociaux en France. T'as tout ce qui est du domaine de la minimum vieillesse. Alors, je vais donner des sites qui vont peut-être parler à certains d'entre vous qui nous écoutez. L'ASPA, le PTS, le RSO, l'allocation veuvage, Là, il y a tout ce qui est du domaine de l'handicap, de l'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité, la hache.
La question adulte.
Minima sociaux, tu vas avoir l'allocation spécifique de solidarité après la fin du droit au chômage. La SS, donc le RSA, etc. Et donc, ça coûte beaucoup d'argent, ça représente énormément d'argent, hein, tout ce qui est prestations sociales, à l'État, ou si bien on a aussi, dans ce domaine, l'allocation logement, hein, qui est aussi une prestation sociale, quoi qu'on en parle. Donc, il y a une grande idée qui est de dire, ben, puisque nous donnons des cotisations patronales et salariales, nous, en tant que salariés actifs, on donne à l'État, à travers l'organisme social, la sécurité et puis la caisse des allocations familiales, des prestations, pourquoi ne pas les redistribuer et puis faire un revenu garanti? Et là, tu as deux écoles de pensée qui s'opposent. Alors, à ton avis, qui est à l'origine du revenu garanti?
Milton Friedman.
Ben, c'est un petit peu...
La même école.
Parce que,
la même école.
Non, non. Ben non. Eh bien, en fait, c'est, effectivement, c'est un économiste américain, Milton Friedman. Très bien, on lui donne une note.
Bravo, sur 20 vidéos, bravo.
Et c'est le plus libéral des chiffres.
Tu passes en classe supérieure.
Oui. Alors, en fait, parler d'instaurer un revenu garanti sans préciser ce qu'on entend par là revient à discuter de l'adoption d'un félin sans dire si c'est un chat ou un tigre, s'il n'est pas la même chose à la maison.
Hein, voilà, le moteur, tu veux dire.
Mais attends, juste une question. Friedman, c'était l'école de Chicago.
Oui.
C'est très libéral.
Eh oui, alors tu as deux stratégies, d'accord, en fait. T'as d'un côté une définition minimale du revenu de base que tout le monde s'entend. Chaque individu recevrait de la collectivité de sa naissance à sa mort, sans condition des contreparties, une somme régulière cumulable avec ses autres revenus, dont ceux tirés d'un travail. Donc, dans les versions de gauche, on imagine un montant proche du salaire minimum, c'est-à-dire 1 000 euros. Et ça permettrait de faire une réduction drastique sur les inégalités, un impôt sur le revenu fortement progressif, taxer le patrimoine, instauration d'un revenu maximum avec une échelle de 1 à 4. C'est une utopie, quelque part. C'est trop distribution.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'inscrit dans un projet plus large. Alors, un contrôle
du coup,
des revenus.
Voilà, un contrôle du revenu, que ce soit du capital ou du travail. Donc, cette pensée un peu radicale, on traite les gens qui sont de cette école-là de purs communistes.
Et le mot me brûlait les lèvres.
Voilà, de purs communistes.
En bon Friedmanien.
Des vrais communistes. Et d'un autre côté, effectivement, tu as la version libérale qui est théorisée par, effectivement, bravo encore, on l'applaudit, l'américain Milton Friedman.
Il a cassé son effet, là.
Et en fait, le montant est trop faible, c'est juste une petite allocation pour qu'on puisse se passer d'emploi. Et au lieu de renforcer le pouvoir de négociation des salariés, le revenu de base fonctionnera alors comme une subvention aux employeurs qui seraient tentés de baisser les salaires. Ça ferait un office de solde de tout compte.
D'accord.
Mais est-ce que j'ai une question un peu du naïf, hein. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire qu'on voit l'État, si tu veux, se compenser de plus en plus les baisses de salaire du fait du temps passé.
Non, mais attends, parce que c'est là où il y a un mécanisme qui est terrible. Parce que, en fait, ça compenserait tout ce que je t'ai dit au départ, là, toutes les différentes prestations que je t'ai évoquées, ça compenserait ces prestations sociales.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire
qu'au lieu d'avoir une allocation adulte handicapé, une allocation spécifique de solidarité, une allocation pour l'autonomie, on aurait tout. Et évidemment, les libéraux sont bourrs, parce que ça permet de raboter tous les minima sociaux.
Tout à fait.
Oui.
Sauf que, quand tu as un minima social d'une allocation adulte handicapé de 840 euros par mois, c'est pas les 452,61 euros. Alors,
je vais prendre un exemple.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les allocations ne sont pas au même niveau. Et sachant qu'en plus, il y a une relative inégalité, entre guillemets, concernant l'allocation logement, même si elle était prise en compte dans l'URSSA.
Absolument.
Que... Non, mais si on prend un exemple pour que l'auditeur, il comprenne, enfin, il a très bien compris, il connaît très bien le sujet aussi, l'auditeur, j'imagine. Mais, si on prend un exemple, on va prendre quelqu'un qui est handicapé, qui touche 830 euros par mois, comme tu viens de le dire, plus une allocation logement, plus les allocations familiales parce qu'il a 4 enfants à la maison.
Il y a à peu près 2000.
Enfin, pas... Il y a à peu près 2000.
Ouais.
Enfin, et là, il toucherait deux fois moins.
Voilà, là, il toucherait deux fois moins. Et oui. Non, mais c'est
non,
ça.
C'est automatique. Mais
parce qu'en fait, au lieu d'avoir la spécificité des publics, en faisant un revenu garanti minimum de base, tu traites tout le monde à égalité.
C'est ça.
Et tu ne prends plus du tout en considération.
Ça veut dire que du coup, les allocations familiales seront aussi incluses dedans, par exemple.
Mais absolument. Donc, tu ne prends plus du tout en considération. C'est pour ça que les libéraux sont pour. Parce que tu ne prends plus du tout en considération la spécificité de ta situation sociale.
D'accord. Mais il y a déjà un plafond de revenus.
Oui, bien sûr, mais ça permettrait de raboter. C'est ça l'idée. C'est pour ça que les libéraux, comme le fait.
Oui, puis de le faire de façon fixe.
Voilà, pour obliger à inciter les gens à bosser. Le problème, c'est qu'on ne crée pas d'emploi en France. Donc, il y a un effet d'aubaine de la part des libéraux qui risque d'être pire que le mal, parce que tous ces gens-là à qui on donne des compensations sociales, comme c'est quand même des revenus relativement bas, c'est pas, on n'est pas imposé à l'ISF.
Surtout, ça baisse avec le temps. C'est-à-dire que n'étant pas revalorisé, il y a une baisse effective.
Absolument. En plus, du fait d'une augmentation réelle du coût de la vie, effectivement, il y a 20 ans, on pouvait vivre avec le RMI dans les dom-toms ou en Guyane parce que tu allais chasser dans la jungle, tout ça. Non mais c'était ça au départ.
Même en province, on pouvait
essayer de province, on pouvait vivoter, mais la réalité, c'est que tu vivotes. Tu vivotes du matin au soir.
Mais juste par rapport à ton papier, je voudrais juste te dire une chose, c'est que effectivement, là, tu as l'air de mettre en cause, de critiquer un petit peu cette formule de revenu universel. Mais sache que tu vas en parler après, mais tu le sais très bien que les différents collectifs des chômeurs, comme les intermittents du spectacle, comme plein de gens à gauche, sont pour une certaine forme.
La deuxième école, d'accord, c'est de dire, non, c'est pas un ticket d'entrée pour un levier d'action en faveur du patronat et du monde du travail par rapport aux charges sociales et patronales et du milieu de l'emploi. C'est un revenu minimum de base pour tout le monde. Mais ça pose quand même un problème parce que tu as la spécificité sociale qui est lié à la situation de l'individu.
J'ai quand même une question parce que il y a plusieurs projets, on l'a vu, le projet du. Entendu comme ça, radicale. Si tu veux, c'est vraiment le projet des gens qui ne travaillent pas et à qui finalement c'est de l'assistance. L'assistance aux pauvres, quoi. C'est tout ce que. Le deuxième projet qui paraissait plus intéressant, c'est quand même la capacité de cumuler, une fois pour toutes, en fait, un revenu de base, donc qui serait d'un montant à déterminer et un salaire.
Voilà. Ce que ne veut pas entendre la droite.
Ah ben,
les libéraux.
On comprend bien parce que.
et d'ailleurs, dernièrement, les gens qui sont donc pour cette vision plus commune de la répartition de la richesse produite disent mais c'est tout à fait possible. Les revenus du capital augmentent tous les ans. Pourquoi on pourrait pas redistribuer ça, etc. Et alors dans leur utopie, c'est pour ça que je parlais d'utopie, ils disent oui mais il faudrait instaurer des salaires de 1 à 5.
Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait limiter les plus hauts salaires pour pouvoir les redistribuer.
Le surplus de richesse produit. Voilà, c'est vraiment du communisme idéalisé. Alors, le problème, c'est que, OPS, on s'est un peu intéressé à ça parce que derrière, il y a un mouvement pour un revenu garanti de base, qui rejoint des libéraux, mais des gens qui sont aussi proches des idées écologiques, etc. Toute une sphère par rapport à cette idée-là qui présente tout et son contraire. D'un côté, une possibilité pour le patronat et le monde du travail de réduire les prestations d'un individu et qui ait une baisse de salaire de fait et de pouvoir d'achat, et de l'autre, un revenu minimum qui devient un plus pour lui.
Oui.
Voilà.
Sachant que les critiques qui viennent sont facilement imaginables, il y en a deux. La première, c'est qu'au fond, on pourrait estimer, c'est une critique qu'on entend des fois, c'est-à-dire que les services publics pâtiraient de ce revenu universel dans la mesure où partant du principe que on a tous un capital qu'on peut en plus accumuler au fil du temps en commençant très jeune, nous serions en mesure d'avoir de moins de services publics parce que nous pourrions les payer. Donc typiquement d'avoir, par exemple une assurance santé plus élevée telle qu'elle est dans d'autres pays. Ce qui peut être entendable dans la mesure où effectivement si tu donnes d'un certain côté, tu perds de l'autre. Et il y a une deuxième critique qui est aussi celle-là, c'est que concernant le cumul revenu de base et salaire, d'une certaine façon, ça accède au desiderata de certains patrons entre guillemets qui voudraient qui pourraient baisser leur salaire.
Bien sûr.
Alors la seule chose, c'est que ça permet de servir de levier,
c'est une forme de subvention publique.
Voilà, c'est une forme de subvention publique, mais au moins ça permet de renégocier le salaire dans la mesure où tu peux te passer d'un travail qui est mal payé, et donc si le salaire n'est pas élevé,
un chantage,
c'est compliqué.
Alors ce qui est intéressant derrière, donc t'as deux camps, d'un camp idéal de redistribution de la richesse garantie à minima pour tous et chacun de sa naissance à sa mort, et de l'autre, t'as une perspective qui est donnée, mais en échange d'une négociation salariale avec un petit plus au départ, mais ça devient une subvention publique pour le monde du travail.
Tout à fait, oui.
D'accord,
oui,
donc le capital. Oui. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'en pensent les Français, à votre avis ?
Ils sont contre.
Bah, je sais pas.
Ils sont contre. Bah ouais, parce que.
Bah, comme en Suisse et en Finlande,
bah, non, ouais,
quel
bah...
Français ? T'as été enquêté auprès des Français
non,
de droite
un,
ou...
Non, non, pas du tout. C'était un petit sondage, hein, fait par Odoxa. C'est une mesure qui est largement rejetée par les Français qui sont persuadés que leurs concitoyens chercheraient à en profiter. Donc, pour eux, même si ça peut mettre fin aux trappes à pauvreté, et ça, j'en suis pas vraiment sûr. En fait, il y a eu un sondage réalisé par Odoxa pour BFM Business, Challenge et Aviva. Le revenu universel est une idée largement réprouvée en France dans un scénario où la mesure ne fait pas augmenter la dépense publique. Les Français jugent que le revenu universel serait d'un coût exorbitant pour la société. C'est le premier argument. Une telle mesure créerait, selon eux, une société d'assistés et ne serait ni juste, ni réaliste, ni même bonne. Ah ouais, ouais. Et ils sont plus de 60% à le dire. Hein.
Oui, mais enfin, c'est un sondage sur 1000 ou 2000 personnes. Donc,
oui, une obligation de travailler, un revenu compris entre 500 et 1000 euros par mois. Mais pour les candidats de droite comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui la porte, cette proposition n'occasionnerait pas de dépenses supérieures à l'État puisqu'elle s'accompagnerait d'une remise à plat de toutes les mesures de solidarité existantes.
Oui, c'est, donc, ça, c'est bien. C'est ça. Hein, donc c'est un revenu libéral. En l'occurrence, libéral, mais de base. C'est-à-dire au sens où
voilà.
Tu cumules toutes
mais
les.
Mais en réalité.
Les, voilà, et c'est pas un coût supplémentaire.
Tu baisses. Énormément, de façon
oui.
drastique.
Alors, question.
Sauf que tu élargis les ayants droit.
Oui,
c'est-à-dire
c'est
qu'effectivement,
c'est
tu as 18 ans, par exemple, je veux dire, comme remède, par exemple, il n'y a pas
ça
de.
Ça pourrait remplacer le RMI.
Le RMI jeune,
jeune
n'existe
ouais.
pas. Enfin,
c'est
ouais, est ridicule, quoi, en fait. Hein, on peut dire, parce qu'il faut travailler pour l'obtenir, il faut avoir travaillé un certain nombre d'années. Bah, typiquement, un jeune de 18 ans pourrait aussi.
Bénéficier.
Moins, en tout cas, enfin, consacrer plus de temps pour réussir son projet personnel, enfin, professionnel, ah, plutôt que d'accepter n'importe quel petit boulot.
Là, pour la question, ça concerne que les aides sociales, ça concerne pas les indemnisations chômage.
Eh ben, c'est toute la question. C'est que
c'est
la sur
question.
La durée, tu D'accord. pourrais aussi envisager.
C'est pour, et au final,
non, c'est un sujet qu'il faut suivre.
Ah, oui. Il est clair que c'est un sujet qui va pas. La protection sociale, c'est quand même plusieurs centaines de milliards d'euros hein, en France. Hein. Donc l'idée, c'est quoi ? Bah, c'est de raboter les prestations.
Oui, enfin, il faut pas exagérer. Le RMI, c'était 5 milliards d'euros il y a quelques années. Alors évidemment, tu rajoutes.
L'allocation pour le logement social.
L'allocation logement, bon. Voilà, mais 500 milliards, plusieurs cent. C'est un, voilà, c'est.
Premier enfant, page, enfin bref.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, si tu.
Ouais, ouais.
C'est ça ouais. l'idée.
Très bien. Merci Christophe. Alors, juste pour essayer, avant la chanson sur le sujet, des indemnisations au chômage, parce que là, on parlait de cumul, hein, évidemment. Donc, il faut savoir que depuis la crise de 2008, il y a une augmentation de 80% des chômeurs qui cumulent petit emploi avec les indemnisations chômage. Ce qui est quand même 80%, ça fait dire 8 personnes sur 10 qui maintenant font des petits boulots à la con pour pouvoir survivre avec leur indemnisation. Voilà, donc il faut ça, c'est une étude du Centre d'études de l'emploi et du travail, le CEET, qui bat en brèche une idée bien ancrée sur les bénéfices du dispositif permettant de cumuler rémunération professionnelle et allocation de chômage. Donc voilà, il faut savoir également que 740 000 classés en catégorie B, hein, aujourd'hui on est à 740 000 qui sont classés en catégorie B, donc moins de 78 heures, et 1,25 million en catégorie C, c'est-à-dire plus de 78 heures de travail par mois. Il y a 1,25 million de chômeurs qui travaillent plus de 78 heures.
Donc en résumé, ça veut dire moins d'un mi-temps et plus d'un mi-temps sur un mois. Quoi.
Exactement. C'est donc c'est quand même pas mal, c'est beaucoup.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. Donc on essaye, notre émission qui perdure depuis 20 ans, on voulait rester nous que quelques mois, mais bon, comme vous le savez, le chômage va continuer à exister. Donc on nous reste, voilà, vous serez encore avec nous dans 10 ans peut-être. Une petite chanson.
Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, Monsieur Jean Charest.
Merci, mon pitre. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts.
Ah, ça fait du bien.
Ah, la Claude Reville. Voilà. Ah, là, de 36, on est passé à 2016. Ah, voilà. Ah, là, mon Claude, là. Ah, là.
On va revivre la nuit debout, là. Je crois que c'est bien là. Parti. Alors, c'était Libérez-nous des libéraux, évidemment. C'est un groupe québécois, et donc, nous les saluons. Nous saluons toutes les chansons qui vont dans le sens de notre ligne éditoriale qui est antilibérale, évidemment. Nous reprenons cette émission pour parler, bien sûr, comme vous le savez tous et toutes, nous sommes en guerre hein, contre je ne sais pas qui, mais en tout cas contre les patrons certainement. Et que il y a en France des lois qui deviennent un peu libertines. Oui, oui, des lois qui viennent un peu liberticides et qui sont un petit peu contraignantes en termes de. La CNIL s'en est chargée un petit peu, mais Ludo va nous en parler. Donc, c'est effectivement cette grosse. C'est un peu comment 1984 aujourd'hui avec cette nouvelle. Ce sont des titres. Tous les gens vont être fichés, c'est ça? L'ensemble de la population va être fichée, Ludo?
Titre électronique sécurisé.
C'est ça, voilà, merci, je cherchais.
Alors, oui, la population va être fichée, je confirme.
Bah oui, les gens vont être délinquants.
Ce qui était déjà le cas, je vous rassure, mais sauf que là, on a atteint effectivement un degré inédit, autant le dire à ce micro. Alors, j'explique un peu l'affaire des fichiers, parce que ça fait plusieurs... Donc, il faut savoir qu'en France, mais comme dans toutes les démocraties européennes, tous les fichiers ne sont pas uniques. Et unis. Je veux dire, si vous êtes des amateurs de SF, vous savez tous que nous avons tous un AID dans un futur proche qui nous est accolé à la poitrine et sur lequel il y a à la fois effectivement toutes les informations nous concernant, effectivement, donc qui vont de nos dates de naissance à je sais pas aux derniers impôts que vous avez payés, la dernière contravention, etc. Ça c'est dans 1984, oui, mais c'est dans tous les romans de SF. Et en plus on vous l'a collé là de façon
sur la poitrine. Ouais,
et donc chaque fois que vous croisez un flic, il lit toute votre vie et donc vous n'échappez pas à son contrôle. Ouais. Là, c'est le voilà.
Vous êtes un délinquant.
Ben, vous êtes un potentiel délinquant. C'est minority report, voilà, pour prévenir. Et donc, évidemment, les gens qui ont créé les différents fichiers, notamment après 1945, ont tous eu conscience de cette dérive potentielle, d'autant qu'ils se prévalaient d'être les démocraties de la liberté contre le totalitarisme de l'URSS, évidemment. Et donc voilà, donc ils ont scindé les fichiers en plusieurs fichiers justement non communicables. Donc typiquement, par exemple, la sécurité sociale a été détachée de la carte d'identité. Donc toute la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale, c'est là où transite. D'abord, c'est le numéro qui vous est attribué à votre naissance et que vous perdez à votre mort, et où vous est attribué toute votre carrière professionnelle, par exemple, toutes les cotisations, retraite, voilà, un numéro unique, exactement, qui sont passés dans votre vie. Donc c'est ce qui sert à calculer au droit à la retraite, par exemple. Et puis, en l'occurrence, toutes vos prestations sociales, votre prestation sociale, puisque quand vous êtes, voilà, numéro de CAF, mais aussi santé. Bon, et ça a été soigneusement mis à part du fichier national de la carte d'identité. Donc, sachant que les policiers peuvent consulter le numéro de sécurité sociale.
Pas d'ailleurs.
Mais et de la même façon que le fichier des cartes d'identité a été disjoint aussi du casier judiciaire, qu'il faut aller connaître. Bon, alors du coup, concernant les cartes d'identité, certains pays comme l'Angleterre, par exemple, n'ont pas de carte d'identité. Vous voyez, en France, on a fait un autre choix. On avait un fichier de carte d'identité, mais
n'était consultable
pas...
que sur demande éventuellement.
Qui était consultable par les policiers, mais qui n'avait pas d'indication, qui ne permettait pas une identification automatique. Donc je m'explique, c'est-à-dire que dans votre fichier, actuellement le fichier national de la carte d'identité, c'est pas en consultant qu'on va voir votre photo, vos empreintes digitales et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'il faut pour ça aller faire une demande. Oui. En général, en préfecture, vous êtes né aux préfectures de votre résidence, pour consulter, pour obtenir
des informations
un peu plus, c'est-à-dire bien vérifier que vos papiers sont exacts, en fait. Hein.
Tout à fait.
C'est ça l'idée. Donc, ce fichier existe, mais il n'y a pas plus d'indications que ça. Or, depuis le passage aux papiers biométriques, qui sont donc prétendument infalsifiables, et notamment au passeport, biométrique, le passeport biométrique, en fait, c'est que sont attachés au document du passeport toutes des données biométriques, donc vous concernant. Donc, effectivement, vos empreintes digitales, votre photo, votre taille, vos nanana.
L'iris aussi,
tout
je
ça,
crois.
Et l'iris aussi. Tout ça étant, tout ça intégré dans une puce de votre passeport. Parce que au moment où vous rendez votre passeport, vous êtes censé, voilà, où on vous contrôle, on est censé vérifier que vous, que c'est pas un faux papier via la puce électronique, et puis quand vous rendez votre passeport, on est censé vérifier que vous êtes le même, vous renouvelez votre passeport, en fait.
Mais voilà. Est-ce qu'on peut voir, quand on consulte ce genre de biométrique, enfin de cette puce là, voilà, est-ce qu'on peut voir les condamnations, les choses
alors,
comme ça
non, ou pas non, 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 bah non, bah non, là il s'agit juste du passeport.
Juste du passeport.
Voilà. Le truc, c'est que voilà, la droite a prétendu, c'était en 2011, centraliser le fichier des cartes nationales d'identité au nom du renouvellement de la carte d'identité, et donc inscrire un fichier, puisque la carte d'identité biométrique désormais, ça existe. Donc, mettre un fichier où sont un fichier national où tous les Français vivant, enfin vivant en France, même pas vivant en France, vivant en France ou à l'étranger ou étant enregistrés, sont dans un fichier national où sont où on, leurs documents se trouvent attachés aux documents des caractéristiques ton iris, des caractéristiques biométriques en fait.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Ce qui fait qu'un ça fait un gigantesque fichier de 60 millions de personnes. Ce qui est considérable. Et la gauche, à l'époque, s'était opposée, et c'était un certain Jean-Jacques Urvoas, aujourd'hui garde des Sceaux, qui s'y était opposé au nom d'un argument très intéressant, c'est-à-dire que la falsification les faux papiers établis n'étaient pas si nombreux qu'on ait besoin d'un fichier national pour le renouvellement des cartes d'identité.
D'accord.
Voilà. Et c'est ce même Jean-Jacques Urvoas
qui revient sur cette position et qui maintenant accepte
une fois au gouvernement. Alors les attentats terroristes sont passés par là.
Ah oui, bien sûr,
là, c'est
bien
sûr. Qui revient effectivement sur la création de ce fichier avec grosso modo à peu près les mêmes arguments, sachant qu'en fait là le risque est quand même important. C'est-à-dire que on crée un fichier au départ qui serait juste destiné à renouveler les titres. Les cartes d'identité.
Mais t'imagines un piratage massif.
Alors exactement, il y a un risque de piratage important.
Et ça, c'est pas un risque bidon. Hein.
Carrément, sûr, puisque il s'est trouvé certains États qui ont vu une partie de leurs papiers se retrouver sur Internet récemment. Puisqu'effectivement un piratage massif
les proxys les serveurs proxys du ministère de la Défense et de
l'Intérieur, il y a un risque quand même d'espionnage important. Et puis il y a une deuxième chose qui est quand même plus inquiétante, c'est qu'en fait on procède un peu toujours de la même manière, c'est qu'au fond on autorise la création d'un fichier pour des raisons techniques, donc en l'occurrence le renouvellement de carte d'identité, mais en réalité on peut très très bien étendre progressivement, sous l'effet d'une menace quelconque, donc en l'occurrence la menace antiterroriste, la menace terroriste, son utilisation réelle. Donc, quand on vous dit que jusqu'à maintenant, le fichier qui sera créé ne permettra pas l'utilisation des données biométriques dans le cadre d'un contrôle de police, rien ne vous indique que dans 5 ans, ce ne soit pas le cas. Et c'est-à-dire que donc je croise mon collègue animateur, enfin... un policier croise mon collègue animateur, et puis dans la foulée, il contrôle effectivement absolument l'exactitude des renseignements, donc les yeux gris, la taille, pour en quelque sorte, c'est-à-dire que le document d'identité ne fait plus foi. C'est bien les documents, c'est bien ce qui est contenu fichier qui va faire foi.
S'il voit que mes yeux sont gris, à mon avis, ce sera trompé de carte d'identité. Est-ce qu'il semble logiquement bon.
Bon, voilà. éventuellement, on n'est pas à l'abri d'une erreur.
À ce propos, il y a un contre-argument qui est très simple, qui a été relevé par tous les journalistes au moment des attentats et aussi par... Alain Bauer, criminologue émérite.
Bien connu, oui.
Bien connu.
Mais contesté, tout de même.
Mais bien sûr.
Une chose, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un gros problème par rapport à la lutte antiterroriste. C'est pas l'antiterrorisme en lui-même le contre-espionnage, hein, ça on sait faire. C'est avoir une force de réactivité, c'est-à-dire créer des services qui arrivent à travailler ensemble aussi bien avec des civils que des non-civils. Il n'y a pas ça en France. C'est ça le problème, parce que sinon on n'aurait jamais eu le bordel du 13 novembre.
Non, et puis les vérifications d'identité.
Il est le premier. Alors ça n'a rien à voir avec le fichier national des cartes d'identité. Hein.
Oui, mais de toute façon, les vérifications d'identité vont quand même assez vite.
J'ai quand même.
Et la question, c'est surtout la création d'un fichier centralisé où, à la limite, tes informations biométriques seraient dans ta carte. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que des informations biométriques te concernant sont centralisées quelque part dans un serveur, au ministère de l'Intérieur, par exemple, et qu'on a toute la population.
Ah ouais.
Voilà, et que l'usage de ce genre de fichier, alors la procédé lui-même est intéressant, c'est-à-dire que la CNIL donc a critiqué ce projet, mais surtout ce qu'elle critique, c'est qu'avant tout ce projet n'a pas été présenté au Parlement.
Exactement.
Comme tous les projets concernant les fichiers, c'est qu'il est passé par ordonnance. Alors que
qu'au niveau
du Parlement, on en aurait discuté. Or, je veux dire, on parle là de fichiers nationaux de police, mais enfin, on sait qu'il y a les fichiers de la DCRI, qui souvent la CNIL doit batailler pour qu'on puisse en parler, pour que même leur création soit mentionnée. Simplement mentionnée.
Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'au nom de la liberté, on crée ce fichier. Mais on peut pas en parler au préalable librement.
Non, mais
exactement. Il y a pas de débat démocratique.
Surtout, ce qui va arriver, c'est les dérives.
Et c'est pour le bien général.
Voilà. Non, pour la lutte antiterroriste.
C'est quand même les dérives anxiogènes et liberticides. Quand même, il y a quand même un souci avec ça. C'est-à-dire que effectivement, le fait même le principe de savoir qu'on est dans un fichier centralisé à la police. Moi, ça me met les cheveux. Moi, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais ceux qui me restent, en tout cas, c'est.
En même temps, tu le savais déjà à partir du moment où tu as une carte d'identité.
Certes, mais là, par contre, ça, j'ai l'impression qu'on a monté d'un cran un petit peu voilà.
Alors, vous savez, la conclusion vient de la quadrature du net, qui rappelle qu'il y a une époque où on a utilisé tous les fichiers qu'on avait à disposition pour aller chercher les gens donc en 1943-44 pour aller chercher les gens qui n'étaient pas enregistrés, bref, les juifs, tout ça, et donc de rappeler qu'à la limite, ce qui est pas important, c'est dans une société on puisse éventuellement dans certains cas avoir des faux papiers, être, et évidemment ça, l'allusion donc à Vichy, c'est justement la phrase qu'avait repris Jean-Jacques Urvoas pour éduquer son recours devant le Conseil constitutionnel lors de la loi de 2011 de la majorité précédente.
Le Conseil constitutionnel dira niet à cette création de.
Ben on va voir. Alors,
je pense que le Conseil d'État j'aurais.
On va voir, parce que non, le fait que ce ne soit pas passé au Parlement empêche le recours au Conseil constitutionnel, c'était le but.
C'était le but. Oui. Merci en tout cas. Merci.
Une toute petite brève pour dire que depuis quelques mois le chômage baisse.
Voilà.
Mais de sources non autorisées et officieuses, on demande à certains allocataires des minima sociaux, on leur dit que c'est plus si urgent que ça qu'ils aient s'inscrire au chômage.
Voilà.
Je ne comprends pas pourquoi.
Alors si le chômage baisse, Hollande peut se présenter. Hein,
voilà, et les radiations se poursuivent.
Et on peut voter pour
mais lui. Mais c'est ce qu'on leur dit. Alors je ne donnerai pas ma source, mais c'est très bizarre.
Alors comme disaient les anarchistes, hein, élection piège à con, je confirme. Cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci aux camarades de l'avoir faite avec moi. Je embrasse les filles. Je fais une poignée de mon garçon. Ciao.
Bonne soirée
à tous.